Jules a 13 ans. Son grand-père est éleveur de Camargue. Il avait envie d'en connaître un petit peu plus et de partager avec vous. Un chapeau, le soleil, les cigales, l'accent du sud. Ouvrez la page et partez dans le delta du Rhône avec eux.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu cent paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté. Quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps, on vivait bien content, mon cheval, ma Provence et moi, mon cheval. Ma Provence et moi. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu cent paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté. Quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté. Battu de soleil et de vent, perdu au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi.
Bonjour papé, est-ce que tu peux me parler de tes chevaux, s'il te plaît?
Bien entendu, je suis à ta disposition.
Tu avais quoi comme race de chevaux?
J'avais des chevaux de pure race Camargue.
Et c'est quoi la différence entre les chevaux de Camargue et les autres chevaux?
Ah ben, les chevaux de Camargue sont les chevaux qui sont nés et qui vivent en Camargue, c'est-à-dire dans le delta du Rhône, entre les deux bras du delta du Rhône.
Et des fois, on voit des chevaux qu'on dit Camargue, mais dans d'autres régions. Comment ça se fait?
Dans d'autres régions, il peut y avoir aussi des chevaux de race Camargue, mais pendant un certain temps, les étalons ne pouvaient provenir que ne pouvait être né que dans la Camargue pure elle-même, de manière à produire des chevaux autant que possible, ressemblant le plus possible à la pure race. Mais je crois que maintenant, les chevaux, à partir du moment où ils présentent un arbre généalogique indiquant qu'ils ont beaucoup de parents, d'arrière-grands-parents de pure race Camargue, n'importe quel étalon peut convenir.
D'accord. Et est-ce qu'il y a une différence avec la taille, la couleur?
La couleur, c'est obligatoirement, lorsqu'ils sont adultes, des chevaux gris, mais on appelle gris des chevaux qui en fait sont blancs. On ne dit pas un cheval blanc, on dit un cheval gris. Les chevaux blancs sont des chevaux, uniquement des chevaux albinos. Et c'est pas courant, si tu veux. Voilà. Et en ce qui concerne la taille, normalement, c'est une taille qui est entre 1,45 m et 1,50 m, 1,52 m. Voilà. Moi, j'avais un étalon qui était un peu excessif au point de vue taille, parce qu'il mesurait 1,52 m. Et c'était dû au fait que depuis 35 ans, j'avais cette lignée, mais depuis 35 ans, j'avais des chevaux qui mangeaient très bien, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver. L'hiver, ils étaient dehors, donc très rustiques, mais malgré tout, il est évident qu'à partir du moment où il n'y avait absolument plus rien à leur donner à manger, je les alimentais convenablement, avec du foin, voilà.
Et est-ce qu'il y a une différence pour monter les chevaux? Est-ce que c'est plus dur de monter un cheval de Camargue ou un cheval...
Les chevaux de Camargue étaient réputés pour avoir particulièrement pas un très bon caractère. Seulement en s'y prenant doucement et d'une manière tout à fait, disons, gentille, si tu veux. C'est-à-dire, et puis, selon une manière qui était une manière académique, si je puis dire, en les mettant d'abord à la longe, tu vois, en les faisant tourner à la longe, doucement, ensuite en leur mettant ce qu'on appelle un surfait, c'est-à-dire une courroie qui leur passe autour de, entre le dos et le passage des sangles. Et puis ensuite, on passe à une surfet un peu plus grande, avec, au bout de 3 ou 4 jours, on leur met une croupière qui leur passe sous la queue, ça, ils le craignent. Hein. En général, quand on leur met ça leur plaît pas trop, et ils font quelque chose de mouton. Et puis ensuite, on leur met une selle, et puis ensuite, on y met alors une selle sans étrier, de manière que ça leur batte pas les flancs, et puis ensuite, une selle avec des étriers. Et puis après, un beau jour, bien, on se les fait tenir, et on monte le cheval, voilà. Mais ça m'a permis une chose, c'est que le dernier cheval que j'ai dressé, qui est en photo là, un peu plus loin sur le meuble, eh bien j'avais 68 ans quand je l'ai débourré, quand je l'ai dressé. Alors que j'ai entendu des gens dire, c'est pas à 42 ans que je vais débourrer un cheval.
Et j'ai entendu que demain il y allait avoir une course libre. C'est quoi la course
Alors
libre?
une course libre, je vais t'expliquer. Ça s'appelle la course libre. Parce que à la fin des années 1800, c'est pas d'hier, on appelait course libre parce que à partir du moment où on était âgé de 16 ans et où on avait assez de courage pour y aller, n'importe qui pouvait y aller pour essayer d'enlever la cocarde et les glands. Tu sais ce que c'est ça? Les glands sont attachés aux cornes, la cocarde se trouve entre les deux cornes. Mais maintenant, on dit toujours la course libre, mais en réalité, elle n'est pas si libre que ça. Puisque les raseteurs, qui sont les personnes qui vont enlever ces attributs qui sont primés, les raseteurs doivent faire partie d'un syndicat, il y a tout un tas de choses à respecter. Par exemple, on lâche le taureau dans les arènes, on attend un certain temps pour qu'il puisse se reconnaître, tandis qu'avant, pas plutôt lâché dans les arènes, ils leur sautaient dessus, ils les raseteaient, etc. Ils ne leur laissaient pas le temps de se reconnaître. Maintenant, on leur laisse le temps et il faut attendre le coup de trompette pour pouvoir commencer de les rajouter.
J'ai entendu parler des manades de taureaux. C'est quoi?
Alors, une manade de taureaux, c'est tout simplement un troupeau de taureaux.
Et comment s'appellent ceux qui les gardent?
Qui garde les taureaux, on appelle ça un gardien.
D'accord.
Mais par rapport aux courses libres, on fait des courses libres avec certaines manades, non? Il y a un rapport.
Ben, on fait, en principe, on fait des courses libres avec énormément de manades. Et les manadiers ont tous une ambition, c'est que d'avoir le plus de courses libres possible, d'avoir le plus de courses possible pour s'en sortir, pour gagner le plus d'argent. Et puis, il est évident qu'on fait plus courir plus facilement les manades qui ont de bons taureaux, c'est-à-dire des taureaux qui font ce qu'on appelle des coups de barrière, c'est-à-dire qu'en poursuivant le raseteur, ils arrivent jusque aux barrières, et ils passent le coup pour essayer d'attraper le raseteur.
D'accord.
Mais il ne faut pas non plus qu'ils se mettent à sauter à tour à travers. S'ils sortent à la rigueur derrière le raseteur, ça va à peu près. Mais s'ils sortent pour rien, ce n'est pas du travail. C'est des taureaux qui sont au juste bon pour des courses de nuit.
Et les manades, ça leur apporte de l'argent?
Ah ben, les manades, c'est ceux qui ont quelques bons taureaux, ceux qui peuvent avoir une royale. Une royale comporte au moins six bons taureaux. Évidemment, on la paie plus cher que ceux qui ont qui peuvent pas avoir ça, qui ont simplement des petites courses, qui vont un petit peu distraire le public. Mais enfin, c'est pas tellement, c'est pas intéressant.
Et à la fin, est-ce que c'est comme la corrida où tu tues les taureaux?
Non, mais ça n'a rien à voir avec les corridas. Dans les corridas, le taureau est obligatoirement tué, tandis que dans les courses libres, c'est tout, on laisse les bons taureaux, les meilleurs, on les laisse mourir de leur belle mort, et puis on les enterre souvent dans le sol de où se trouve la manade.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Que ce monde est sérieux. Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo.
nosotros, otras vidas y otros toros, y mataremos otros.
Venga, venga, baila, y mataré los otros.
Des marques des fois sur les taureaux, c'est quoi?
Ah ben chaque voilà. Alors d'abord, premièrement, la plupart, quasiment les 90% ou les 95% des éleveurs ont une marque spéciale qui peut être n'importe quoi, qui peut être une étoile, qui peut être enfin tout ce qu'on peut penser. Et ça, c'est une marque qu'on applique au fer rouge quand, sur des jeunes taureaux, sur des en général, sur des sur des petits taureaux de 1 an, voilà, à l'occasion d'une fête qui s'appelle la ferrade, parce que c'est le fer qu'on applique sur la cuisse du taureau. Ça, ça vient du temps où les taureaux se gardaient à bâton planté, c'est-à-dire qu'il n'était pas, il n'y avait pas de clôture de fil de fer barbelé. Donc, ils avaient tendance à se mélanger, tous ces taureaux. Donc, finalement, il fallait quand même reconnaître les taureaux de tel ou tel propriétaire.
Pour les chevaux, c'était quoi votre marque à vous?
Ma marque représentait, étant donné que nous sommes au bord de la mer, il y avait une ancre, et entrecroisée avec un trident.
D'accord.
Qui est on appelle ça un fer en Camargue, le trident. Au bout d'un manche, il y a trois dents, de manière à se défendre des taureaux et surtout à faire peur aux taureaux pour, lorsqu'on veut aller quelque part, les faire aller d'un côté ou de l'autre, les faire tomber ou poursuivre les anoubles. Pour les ferrades, alors on les fait tomber à cheval en les poursuivant et en leur flanquant un bon coup de fer dans les fesses, le petit taureau se tombe.
C'est quoi un anouble?
C'est un taureau de nain.
Et c'est quelle race de chevaux qui sont les plus gentils?
Qui sont les plus
gentils?
Ça dépend, ce qu'on considère. Théoriquement, le cheval le plus joli et qui sert à améliorer les races, c'est le cheval arabe. Mais le pur sang arabe, pas le barbe. Le pur sang arabe, voilà. Le pur sang arabe, vous le croisez avec n'importe quelle race, y compris avec des chevaux de trait. Il fait toujours des beaux chevaux, c'est-à-dire des chevaux bien conformés. Et d'ailleurs, je crois que c'est le boulonnais qui est finalement un pur sang arabe grossi. Le boulonnais qui est un cheval de trait.
Bon, ben merci.
Au revoir.
Au revoir.